Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Sophie Tussaud.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 8h.
On les interroge et on voit si c'est cohérent. Si c'est pas cohérent, on peut les réfuter. De toute façon, il faudra vacciner tout le monde. Donc si on en passe un de temps en temps, c'est pas grave.
Plus besoin de prescription médicale à partir d'aujourd'hui pour se faire vacciner. Nouveauté en plus de l'élargissement dès ce matin de la vaccination aux Français de moins de 55 ans souffrant de maladies chroniques.
Le 1er mai, après le confinement l'année dernière, le retour des manifs syndicales dans les rues, des défilés partout en France.
Situation tendue à droite à moins de 2 mois des élections régionales. Les Républicains durcissent le ton contre Renaud Muselier, président de la région PACA qui a tendu la main à la majorité présidentielle. Christian Estrosi, le maire LR de Nice, sera l'invité de ce journal.
Et puis un duel franco-français en rugby cet après-midi pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Toulouse accueille Bordeaux-Bègles à 16h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une nouvelle étape dans la campagne vaccinale aujourd'hui. Elle est élargie aux adultes souffrant de maladies chroniques.
Elle concerne 4 millions de Français fragiles âgés de 18 à 55 ans, atteints d'obésité, de pathologies cardiovasculaires ou d'antécédents d'AVC. Autre nouveauté, plus besoin de présenter de prescription médicale. Alors faut-il s'attendre à voir des personnes hors cible tenter leur chance? Nicolas Feldman a demandé au centre de vaccination du 17e arrondissement de Paris.
On fait un no pic là, on est un peu à saturation dans la salle des fêtes.
Près de 600 personnes vaccinées hier. C'est un record pour le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard.
On ne va pas pouvoir faire plus dans cette salle parce que notre capacité est limitée. Il faut qu'on respecte les gestes barrières, il faut qu'on respecte un certain nombre de circulations. Il y a une demande forte.
Une demande qui vient aussi des personnes sans rendez-vous en quête d'une première dose. Divine est chargée de les orienter.
Je vois énormément de personnes qui viennent et on ne peut pas vérifier leur comorbidité ou leur pathologie. Et moi, je renvoie toujours au médecin et c'est à lui de déterminer s'il peut vacciner ou pas.
Dans l'un des 5 box, le docteur Marc Bayarja enchaîne les vaccins.
Je vous pique dans le bras gauche.
Il est le responsable du centre. Sans prescription médicale, c'est donc lui qui tranche pour administrer ou non le vaccin.
Les médecins ont l'habitude de cela. Nous, quand on voit quelqu'un, ils n'ont pas forcément leurs ordonnances. On les interroge et on voit si c'est cohérent. Si c'est pas cohérent, on peut les réfuter. Un bon comédien peut y arriver. Hein. De toute façon, il faudra vacciner tout le monde. Donc si on en passe un de temps en temps, c'est pas grave.
Les autorités comptent sur la bonne foi des Français. On fait confiance aux gens, indique le ministère de la Santé.
Nicolas Feldman, pour l'heure, plus de 15 millions de personnes ont reçu au moins une injection et ils sont 6 millions à avoir reçu les 2 doses. La campagne vaccinale accélère donc encore aujourd'hui avec l'élargissement aux personnes de plus de 18 ans qui souffrent de maladies chroniques comme l'obésité ou l'hypertension.
Alors Victor Delande, on avoue qu'on s'y perd un peu dans ce calendrier. Aidez-nous à y voir plus clair.
Alors pour résumer, si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez vous faire vacciner dès aujourd'hui et aucun critère ne vous sera demandé. Si vous êtes soignant, peu importe votre âge, là aussi vous pouvez recevoir une injection dès maintenant. Depuis ce matin, les personnes majeures qui ont des maladies chroniques ont également accès à la vaccination. On pense aux personnes souffrant d'obésité, mais aussi aux insuffisants cardiaques, aux insuffisants respiratoires, au diabète de type 1 et 2 et à tous les patients atteints d'un cancer ou d'une pathologie neurologique. Ça représente près de 4 millions de Français. À partir du 15 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans, et là sans autre critère de sélection, pourront à leur tour se faire vacciner. Enfin, comme le président de la République l'a annoncé hier, il n'y aura plus aucune restriction à partir du 15 juin prochain. Autrement dit, tous les Français qui souhaiteront se faire vacciner pourront le faire à partir de cette date.
Merci Victor Delande pour ces explications. Et du côté des chiffres, le nombre de patients en réanimation a continué de baisser hier. Moins de 5700 personnes sont actuellement hospitalisées dans ces services en France.
En Europe, c'est la Hongrie qui déplore le plus grand nombre de victimes du Covid par rapport à sa population. 26 000 décès pour 10 millions d'habitants.
La situation tend à se calmer. Le gouvernement de Viktor Orban a annoncé un assouplissement des mesures de restriction. Pourtant, les services mortuaires travaillent toujours à flux tendu. Sébastien Soldaini est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest.
Dans une banlieue de la capitale, les employés d'un crématorium terminent leur journée. Les têtes sont basses. Cela fait plusieurs semaines qu'ils travaillent sans relâche.
Ça fait 6 mois maintenant et ça ne s'arrête pas. C'est 50 à 60% de plus qu'en temps normal. Alors pour tenir le coup, nous répartissons les crémations et nous envoyons les morts sur les autres sites gérés par notre société.
Comme en Italie l'an passé ou au Brésil, aujourd'hui les cimetières peinent à accueillir les victimes du Covid. Ce médecin généraliste vient d'échanger avec son employé.
Mon assistante vient de perdre sa belle-mère à cause du Covid.
és júniusba tudják
eltemetni. On lui a annoncé que l'enterrement n'aura lieu qu'en juin, parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières.
A várakozás júniusba fogják temetni.
Situation ubuesque alors que le gouvernement vient tout juste d'autoriser l'accès aux salles de restaurant ainsi qu'aux lieux de spectacle. Budapest, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
L'Inde est submergée par les contaminations. 400 000 cas recensés en seulement 24 heures. C'est un nouveau record. Le pays qui manque de matériel médical a commencé à recevoir de l'aide internationale. La France envoie pour sa part une cargaison dans l'après-midi. La France où par ailleurs ont été détectés pour l'instant 5 cas du variant indien.
Également dans l'actualité de ce samedi 1er mai, le retour dans la rue des défilés syndicaux. Plusieurs cortèges sont prévus partout en France.
L'année dernière, les manifestations n'avaient pas été possibles en raison du confinement. Alors à quoi va ressembler cette année, le 1er mai, la réponse d'Olivier Samin.
Renouer avec la tradition des cortèges, des drapeaux et des banderoles et gommer ainsi le triste souvenir de l'an dernier où les syndicats avaient dû se résoudre à un 1er mai 100% virtuel. Ça, c'est le désir de beaucoup de militants. Mais il y a aussi la volonté de montrer que les syndicats vont peser dans la séquence qui va s'ouvrir avec le retour progressif à la normale. Volonté que la CGT, FO, la FSU et Solidaires vont marteler à Paris cet après-midi entre République et Nation. Ce message, la CFDT le déclinera aussi, mais à sa façon, via une discussion en direct avec Laurent Berger sur la page Facebook et le site de la Confédération. Durement éprouvé par la crise sanitaire, le monde du travail redoute les ajustements que le gouvernement pourrait vouloir imposer maintenant que le ciel se dégage. Le quoi qu'il en coûte ne doit pas devenir un quoi qu'il en coûte aux salariés, dit le chef de file de FO Yves Verrier. Allusion à la réforme des retraites, dont certains dirigeants politiques évoquent le côté incontournable. Allusion aussi à la réforme de l'assurance chômage que le gouvernement va mettre en œuvre à compter du 1er juillet, malgré le rejet unanime des syndicats.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Et bien sûr, nous reparlerons de la fête du travail avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Il est l'invité politique à 8h15.
À Paris, le cortège partira tout à l'heure à 14h de la place de la République pour rejoindre la Nation. D'autres rassemblements sont prévus dans la capitale. La sécurité a été renforcée pour éviter tout débordement et le déploiement de Black Blocs.
Europe 1, 8h07, dans un peu plus d'un mois et demi, se tiendront donc les élections régionales. Et en cette période préélectorale, les Républicains traversent une tempête en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cette semaine, Renaud Muselier, président LR sortant, a tendu la main à la majorité présidentielle. De quoi mettre la droite en ébullition avant la commission d'investiture mardi prochain. Avant celle-ci, un conseil stratégique se tiendra sur le sujet. Une réunion qui s'annonce d'ores est déjà orageuse, Aurélie Herbemont.
On peut retirer le soutien de LR à la liste s'il faut aller jusque-là, tonne la direction du parti. Après les tentatives infructueuses de persuasion, la droite passe aux menaces. Voilà Renaud Muselier prévenu. Mais pas question d'aller jusqu'à monter une liste LR pur jus contre lui. On peut être méchant, mais on peut aussi ne pas être idiot, explique un dirigeant. Un maire de PACA qui refusera de faire campagne s'il y a le moindre ministre ou député en marche sur la liste le confie. Nous ne voulons pas le faire perdre. Et ça, Renaud Muselier le sait. Il vaut mieux quand même que je gagne et qu'il m'aide, s'amuse-t-il. La droite va donc passer les jours qui viennent à s'invectiver entre les défenseurs d'un accord avec la Macronie pour éviter une victoire du Rassemblement national en PACA et les autres, très nombreux, qui trouvent cette démarche mortifère pour LR à moins d'un an de la présidentielle.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le maire Les Républicains de Nice. Le président de la commission d'investiture de LR, votre collègue de PACA, Éric Ciotti, vous accuse d'accord d'appareil. Il sous-entend que vous négociez un poste avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que si, depuis 4 ans, il utilise cet argument pour essayer d'abord, avec l'ambition de venir me contester et me combattre aux élections municipales, en mesurant rapidement qu'il valait mieux se retirer de cette tentation, n'ayant aucune chance, tant mon esprit de rassemblement avec les Niçois les ont toujours fédérés autour de moi, eh bien, je veux dire que c'est à ma famille politique maintenant de régler ses propres problèmes. Si certains ne cessent de la conduire vers des dérives politiques, pour camoufler son propre sectarisme et ses propres dérives en attaquant par les mensonges, voire la calomnie, ça ressemble fortement au type de posture que l'extrême droite, depuis des années, utilise. Et ça m'inquiète énormément. Voilà, ça fait longtemps que j'ai choisi de servir ma ville exclusivement, et chacun le sait. Et la parole tenue en politique, ça compte, même si pour une grande partie de la classe politique, aujourd'hui, on se moque un peu de la parole tenue.
Christian Estrosi, quand vous parlez de sectarisme d'Éric Ciotti, vous faites référence notamment à cette déclaration dans la presse. Ce qui nous différencie avec le Rassemblement national, c'est notre capacité de gouverner.
Mais vous savez, au sort du premier tour, il fait partie de ceux qui n'ont pas fait de choix aux élections présidentielles entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On a dorénavant refusé de choisir, et manifestement, c'est un choix qui s'inscrit de manière durable. C'est ma grande différence avec le RN. Ce qui me désole, c'est qu'avec Nicolas Sarkozy, j'ai été de ceux qui ont fondé les Républicains dans le prolongement de l'UMP sur un socle gaulliste d'ouverture, de rassemblement, et surtout où la règle intangible était aucun rapprochement ni de pensée, ni d'idéologie, ni de gouvernance en quoi que ce soit avec le Front National. De toute évidence, je suis attaché à ma famille politique. Mais si on continue à aller vers cette voie, les divergences qui se montrent de plus en plus au grand jour vont faire exploser les valeurs sur lesquelles ont été fondées les Républicains.
Merci beaucoup, Christian Estrosi, maire LR de Nice, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.
Dans l'actualité internationale, l'armée américaine commence aujourd'hui le retrait de ses troupes d'Afghanistan. Un retrait très attendu après 20 ans de présence américaine dans le pays, et en même temps redouté par ceux qui craignent le retour au pouvoir des talibans. Les troupes auront définitivement quitté le pays au 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attentats de New York.
On passe au sport, ma chère Sophie, avec le basket. Et Monaco est entré dans la cour des grands hier.
Les Monégasques ont remporté l'Eurocoupe face aux Russes de Kazan, 86 à 83. Une première pour un club français. Et forcément, grande satisfaction. Écoutez Mathias Lessort, ailier des Bleus.
On a gagné. Très bonne équipe. Grosse bataille. Franchement, c'était un match énorme. Donc, je pense qu'on n'a pas voulu celle-ci. On l'a mérité. On s'est vraiment battu. Il y a encore la JP Elite qui arrive. Donc, on va vraiment profiter de l'Eurocoupe parce qu'on a vraiment cravaché pour arriver ici. Et je ne pense pas que tout le monde pensait qu'on pouvait arriver jusqu'au bout. On a toujours réussi à trouver un moyen de gagner, et je pense que ce soir ça montre à quel point on a les crocs, et on est une équipe qui est dure et qui est ensemble et qui arrive à rebondir. Ça, c'est vraiment une très belle expérience pour nous, et je pense qu'on se souviendra toute notre vie de cet instant-là.
Mathias Lessort au micro européen de Frédéric Hélion.
Et puis en rugby, les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby, et un duel franco-français puisque Toulouse accueille Bordeaux-Bègles à 16h.
Un match sans supporters, difficile du coup à vivre pour les Toulousains favoris de la rencontre. Écoutez Benjamin Peter.
Si victoire hier, on ne pourra pas aller place du Capitole, ça me désespère.
Florence en rage, alors que le stade est peut-être à l'aube d'un exploit, d'un titre européen et même d'un titre en championnat. Elle, qui fait partie de l'amicale des supporters, va devoir les regarder jouer depuis son canapé.
Stressée, parce que c'est une demi-finale, parce qu'on a envie que le stade aille le plus loin possible. Frustrée, parce qu'on ne peut pas y être. Mais ils nous font rêver, et puis heureusement qu'on les a quand même. Même si on ne peut pas être là, au moins ça, on peut y assister par l'intermédiaire de la télé, de la radio. Ça fait du bien quand même.
Jean-Marc, du club de supporters Le 8, lui aussi rêve de retrouver les tribunes.
Dès qu'on va nous lâcher, on va lâcher des fauves. Hein. On a besoin de se retrouver entre collègues, on ne se voit pas, on est enfermé. On range notre frein, il y en a marre. Quoi.
Mais ce qu'il voudrait surtout, c'est d'offrir à Johan Huger, blessé samedi dernier au tendon d'Achille et qui a dû anticiper sa fin de carrière, une belle sortie.
Avec tout ce qu'il a rendu à ce club, Johan est formidable. Donc il faut qu'on lui gratte un titre. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous avec lui et on espère qu'il y aura un titre à lui offrir. Quoi.
Mais il va déjà falloir l'emporter face à Bordeaux, puis en finale, pourquoi pas face au Leinster, ses supporters en rêve, histoire de voir un vrai combat pour la 5e étoile. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
Et Toulouse, Bordeaux, Bègles, c'est donc à 16h.
Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud.